Cap Sport, la rediff.
Enfilez votre casque, accrochez votre ceinture de sécurité, installez-vous bien confortablement dans votre siège baquet. C'est parti pour une nouvelle chevauchée. Cap Sport vous emmène aujourd'hui dans une monoplace. On part à la découverte de la Formule E, la formule électrique qui fait escale à Zurich le week-end passé. Cette discipline s'apprête à subir de grands changements pour la saison prochaine. On parlera évidemment de sport automobile dans la deuxième partie de Cap Sport. Les 24 heures du Mans se déroulent ce week-end. Suisse est d'ailleurs en pole position. Les 24 heures du Mans, une épreuve mythique. On cherchera à décrypter ce mythe. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Cap Sport. On va donc appuyer sur la pédale des gaz. Les 24 heures du Mans et la Formule E au programme du soir. Et je ne serai pas seul pilote à bord, puisque Mathieu Schaffner, lui aussi, a revêtu son casque. Il a enfilé sa combinaison des gants pour m'accompagner.
Bonsoir Florian, combinaison qui vous va ravir, hein, soit dit en passant.
Mais je vous remercie. Rafraîchissez-vous un peu la mémoire. La Formule E, c'est une discipline assez nouvelle dans le milieu du sport automobile.
Ah oui, effectivement, le championnat de formule électrique, il a été lancé en 2014. C'est donc la quatrième saison qui touche gentiment à sa fin. La Formule E, ce sont des monoplaces propulsées par un moteur électrique. Deux pays s'en tirent plutôt bien depuis le lancement. Le Brésil et la Suisse, deux champions du monde sont brésiliens, Nelson Piquet Jr. et Luca Di Grassi. Et puis un Suisse, Sébastien Buemi, le Vaudois. Cette année, c'est le Français Jean-Éric Vergne qui mène le bal. Côté constructeur, on a de grands noms dans le paddock. Renault, Audi, Citroën et même Jaguar. La saison, elle, se dispute dans 10 villes pour un total de 12 courses.
Et on lui a chargé les batteries, hein, puisqu'on a un spécialiste pour nous éclairer nos lanternes, Jérôme Beuchat. Vous êtes journaliste pour la chaîne de télévision MySports. Vous suivez la saison de Formule E. Bienvenue dans Cap Sport.
Merci, bonsoir.
Le week-end passé, c'était donc le e-prix de Zurich. Les échos ont été plutôt positifs. La Formule E se trouvera un vrai public. Telle est la question. Public plutôt familial qu'en Formule 1 ?
Alors c'est un peu plus familial en formule et effectivement, mais ce qu'il faut surtout dire, c'est que ce sont des circuits qui sont en ville, donc c'est pas cher d'aller voir un e-prix. Par exemple à Zurich, on a annoncé 150 000 personnes, le 90% des spectateurs étaient au bord de la piste gratuitement. Donc ça change de la Formule 1 par exemple. Après, est-ce qu'il y a un vrai public de Formule E? Je pense pas, il n'y a pas encore de fans de pilotes comme il y a des fans d'Alain Prost, d'Ayrton Senna ou maintenant de Lewis Hamilton. Je crois pas qu'il y ait encore de fans de Sébastien Buemi, de Lucas Di Grassi ou de Jean-Éric Vergne.
Pourtant les organisateurs essayent, hein. Il y a notamment ce fan boost, on donne une petite énergie en plus à un pilote selon le vote du public.
Ouais, exactement. Il y a les 20 pilotes, on peut voter pour eux sur les réseaux sociaux. Les trois premiers ont une puissance supplémentaire, donc un petit bonus pendant la course avec leur deuxième voiture. On voit que c'est un petit peu tout le temps les mêmes qui sont devant. Hein. C'est Di Grassi, c'est Daniel Abt, l'Allemand. C'est heureusement pour nous Suisses, Sébastien Buemi. Après, il y a un petit problème avec cette fan boost parce qu'il y a des gens qui disent que des écuries payeraient des entreprises pour faire des faux comptes et puis donner des voix aux pilotes.
Alors, l'une des grandes particularités de cette formule électrique, forcément, c'est le bruit, ou le manque de bruit, pour être plus exact. Ça ressemble à quoi, vous, qui avez l'habitude de commenter ces courses ?
Alors, ça ressemble à un espèce de bourdonnement, ça fait vvv comme ça. Mais si vous êtes au bord d'un circuit, le bruit, ça équivaut, par exemple, à un camion qui vous passe devant vous à 50 km/h. Donc, on voit que c'est pas, vous n'avez pas besoin de mettre des protections pour les oreilles, ça ne dépasse pas les 80 décibels.
Et c'est ce qui peut expliquer peut-être qu'il n'y ait pas encore un vrai public, parce que typiquement, en Formule 1, on sait qu'il y a des passionnés qui vont là juste pour entendre passer les voitures.
Alors effectivement, les fans de sport automobile, ils sont là pour le bruit. D'ailleurs, il y avait eu des voitures électriques qui étaient montées à Saint-Ursanne-les-Rangiers. Moi, je m'en souviens, j'étais au petit Souston, la voiture, on l'a pas entendu venir. Hein. Et tout d'un coup, on a regardé sur la piste, on a dit « Ah ouais, elle est là ». C'est vrai qu'il manque un petit peu ce bruit. Les courses, elles sont spectaculaires, peut-être même plus qu'en Formule 1. Il y a plus de retournements de situation, mais celui qui est fan de bruit, avec la Formule E, il perd quelque chose, en effet.
Et du coup, est-ce que c'est vraiment perturbant d'assister à une épreuve de sport automobile dans ces conditions, quand on n'entend rien, entre guillemets?
Alors la première fois, ça a fait bizarre, pour les pilotes aussi, hein, d'ailleurs, ils l'ont tous dit, hein, ils sont mis dans le baquet, ils ont fait aller de la voiture, puis ils ont dit, ouais, mais il n'y a pas de bruit, il n'y a rien du tout. Ils se demandaient d'ailleurs si leur voiture fonctionnait bien, et puis au fil des courses, eh bien, franchement, on s'habitue au bruit.
Et ça peut devenir, ou c'est déjà une force de la discipline, ce bruit qui est absent ?
Alors le bruit qui est absent, oui, parce que du coup, ben, les organisateurs peuvent organiser des e-prix en ville, au lieu d'aller sur des circuits, parce que du coup, il n'y a pas de gêne au niveau du son. Donc ouais, ça c'est. Mais après, c'est surtout le fait que ça soit écologique que ça fait la grande force. Il faut pas se mentir. Hein. C'est comme en politique. Si vous parlez pas d'écologie, vous avez aucune chance d'être élu. Donc la formule E, elle a cet impact parce que c'est écologique.
Oui, et puis il faut dire que les moteurs électriques poussent. Hein. Autre particularité, c'est que les courses se tiennent en pleine ville. Alors vous sentez un engouement particulier. C'est un gros point fort de la formule E.
Ouais, effectivement, c'est comme j'ai dit avant, à Zurich, c'était 150 000 spectateurs. Le 90% des spectateurs n'avaient pas de billets. On vient simplement au bord du circuit. Les seuls billets qui ont été vendus, c'est des billets VIP pour être en tribune. Mais le but, c'est vraiment que ça soit populaire. Et puis, c'est que les pilotes soient accessibles. En F1, c'est devenu vraiment des Hamilton, des Vettel, des grosses stars inatteignables. Maintenant, en Formule 1, on essaye vraiment de faire que le pilote soit proche de son public. D'ailleurs, toutes les cérémonies de podium, elles sont les pilotes qui vont sur le podium doivent traverser la foule pour aller au podium. Ils font des selfies avec les gens. Franchement, c'est hyper atteignable.
Bon, quand on écoute un peu les gens parler, hein, on parle forcément de Formule 1 quand on évoque le sport automobile. Alors, est-ce que la formule électrique devient gentiment un vrai concurrent à la F1, même s'il manque le...
Vous le faites bien, Florian.
Ah, c'était pas mal, Florian, le petit bruit d'abeille. Un concurrent, pour l'instant, je ne sais pas, parce qu'il faut dire que la F1, c'est quand même le sport automobile qui est médiatisé le plus dans le monde, et depuis je ne sais pas combien d'années, mais je pense 70 ans en tout cas. Là, la Formule E, c'est la 4e saison, donc effectivement, la Formule E, pour que ça devienne un concurrent de la Formule 1, il faut simplement que les médias s'en emparent et puis que les grosses marques aillent en Formule E. Tant que les médias parleront plus de Formule 1, ben la Formule E ne sera pas un gros concurrent de la Formule 1, je pense.
Mais cette étape-là, que les médias s'en intéressent encore davantage, ça peut arriver selon vous ?
Ah ben là, ça commence, il y a quand même de plus en plus de médias. MySports, ben on le diffuse, on est d'ailleurs l'unique diffuseur en Suisse, donc on voit qu'il y a un intérêt. L'année prochaine, il y a deux nouvelles marques qui vont arriver en Formule E, c'est BMW et Nissan, donc c'est pas non plus des petites marques. Donc on voit que de plus en plus, on s'intéresse à cette Formule E.
Si je vous dis que dans 20 ans, la Formule E aura mis aux oubliettes la Formule 1, c'est quelque chose de plausible ?
Mais pourquoi pas, hein, si on parle de plus en plus d'écologie, effectivement, il y a peut-être des marques qui vont quitter la Formule 1 pour aller en Formule E. C'est vrai que pour une marque, ça fait aussi de la pub, hein, il faut pas se mentir. Quand une marque dit on arrête le moteur à essence, on arrête de polluer, entre guillemets, et puis on va sur un sport propre, eh bien forcément, ça redore l'image de la marque.
Alors, sportivement, on a quand même le sentiment que c'est un peu le championnat de réserve, cette Formule E. Quand on regarde les pilotes, il y en a pas mal qui n'ont pas percé en F1, qui sont dans ce championnat de Formule E. Il y a le vaudois Sébastien Buemi, il y a le français Jean-Éric Vergne, il y a les brésiliens Luca Di Grassi, Nelson Piquet Jr. On n'arrive pas à percer en F1, on va en Formule E ?
Bah, je pense pas que c'est comme ça. C'est plutôt la FIA a créé une nouvelle discipline, il fallait des pilotes, et ben on prend les pilotes qui n'ont pas de contrat. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ce sont ces pilotes-là qui vont formuler. L'année prochaine, il y a Felipe Massa qui vient en formuler. Il a été, si je me trompe pas, deuxième du championnat du monde de Formule 1 en 2008. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent. Après, on met un Lewis Hamilton dans une Formule E. Je suis pas sûr qu'il batte Jean-Éric Vergne. On met Jean-Éric Vergne dans une F1. Ça dépend aussi du pilote. Je pense pas qu'il faut comparer la F1 et la Formule E. Et si on revient sur les rangiers, si on met un Sébastien Vettel au départ des rangiers, je suis quasiment sûr qu'il bat pas le record de Simone Fagioli. Donc je pense qu'il faut garder chacun sa discipline.
Mais alors parlons un petit peu de sous, hein, de thunes, puisqu'il faut savoir que la F1, bien forcément ça a un coût, on connaît un petit peu les budgets qui sont engagés là-dedans. Est-ce qu'il y a autant d'argent en Formule E qu'en F1 ?
Non, alors il y a beaucoup moins d'argent. Hein. Par exemple, juste à titre de comparaison, en Formule 1, l'écurie qui a le moins grand budget, c'est environ 130 millions de francs suisses. Ça va jusqu'à 520 millions pour Mercedes et Ferrari. Et en Formule E, les budgets par team, c'est entre 12 et 24 millions. Donc je vous laisse un petit peu imaginer la différence. Et puis les salaires des pilotes également. À Lewis Hamilton, à Sébastien Vettel, c'est 50 millions de francs suisses par année de salaire. En Formule E, les tout meilleurs, mais vraiment ceux qui jouent le titre, genre Jean-Éric Vergne, ça touche à peine le million.
Eh bien tiens Florian, vous continuerez de garder votre combinaison, tout à coup ça peut rapporter gros. Jérôme Beuchat, du côté des constructeurs, l'intérêt, est-ce qu'il est clairement du côté publicitaire? C'est ça qui les pousse à se lancer dans cette discipline? On veut montrer qu'on se développe, qu'on développe ce côté écologique?
Ah oui, je pense que l'écologie a un grand effet. On a vu, c'est Renault qui a lancé la chose avec Sébastien Buemi comme pilote. Renault et Dams a gagné les trois premiers championnats des constructeurs. Ils sont à la peine cette année. D'ailleurs, Renault arrête à la fin de l'année. Il y a BMW, comme je l'ai dit tout à l'heure, et Nissan qui arrivent l'année prochaine. Il y a Audi qui reste, il y a Jaguar qui reste, il y a NIO qui reste aussi. Il y a Porsche qui hésite ou encore à venir. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est que jusqu'à maintenant, chaque pilote avait deux Formules E et fait changer de voiture au milieu de la course parce que la batterie n'était pas assez performante. Ça a retenu, par exemple, BMW. BMW a dit, nous, on ne veut pas venir en Formule E si on doit changer de batterie parce qu'on passe un petit peu, entre guillemets, pour des benets. Ça veut dire que notre batterie, elle n'est pas fiable. À partir de l'année prochaine, il n'y aura plus qu'une seule voiture. Les batteries seront fiables du début à la fin. Donc là, il y aura vraiment... quelque chose à faire et montrer que justement ces batteries peuvent tenir toute une course. Donc il y a vraiment un gros défi au niveau de l'électrique.
On est à un mois de la fin de saison, hein. Les deux dernières courses se tiendront mi-juillet à New York. Alors on parle déjà beaucoup de l'avenir, la saison prochaine va connaître pas mal de bouleversements. Avec déjà l'arrivée d'une nouvelle monoplace, qu'est-ce que ça cache ?
C'est simplement le développement, hein. On appellera ça la Gen 2. Donc c'est comme je viens de dire, ça sera une seule voiture pour toute la course. Il y aura 11 écuries l'année prochaine au lieu de 10, ça veut dire 22 pilotes au lieu de 20. Un petit mot sur cette Gen 2, donc elle sera plus puissante, 250 kW. Ça fait quand même du 0 à 100 en moins de 3 secondes, hein. Donc je vous laisse un petit peu imaginer l'accélération. Ça peut atteindre 280 km/h et puis... il y aura aussi la course qui va changer, ça sera plus un nombre de tours défini, ça sera 45 minutes plus un tour, donc on pourra pas se dire, ah il reste 10 tours, faudra vraiment gérer le temps, ça sera un petit peu plus spectaculaire, et puis il y aura aussi la fan boost qui reste. Donc le pilote pourra toujours avoir de la puissance supplémentaire. Et puis il y a un truc nouveau aussi l'année prochaine, ça s'apparente un petit peu à Mario Kart, ça fait bizarre quand on dit ça, mais c'est ce que veulent les organisateurs. Le pilote, il pourra sortir de la bonne trajectoire pendant un petit moment, et puis du coup, il aura plus de puissance pour les 4 prochaines minutes.
Voilà.
Donc ça sera un petit peu spécial.
On se laisse imaginer, effectivement, mais vous nous rassurez, il n'y aura pas de carapace sur la piste, on ne va pas commencer à balancer des objets depuis la voiture, comme dans Mario Kart.
Non, alors j'espère pas, et puis en plus, l'année prochaine, ça ne sera plus le pilote qui aura le meilleur tour en course qui gagnera un point supplémentaire au championnat du monde, mais dans les 5 premiers pilotes, celui qui aura le plus de batterie à la fin, il aura ce point supplémentaire, donc on fait marcher l'écologie jusqu'au bout.
Il faudrait économiser aussi, effectivement. Vous avez lâché le mot, Jérôme Bechat, spectaculaire, ces nouveautés, ces innovations, ça va donner aussi plus de spectacles à la discipline.
C'est ce qu'espèrent les organisateurs. Justement, il y en a déjà cette année avec ce changement de voiture. Pour ceux qui n'ont jamais regardé de la Formule E, je peux vous dire que c'est assez impressionnant. On peut gagner des places en changeant de voiture, on peut en perdre aussi. Ces moteurs électriques, ils ne sont pas toujours fiables, hein. Audi en a fait les frais en début de saison. C'est pour ça que le champion du monde en titre, Lucas Di Grassi, est assez loin au championnat du monde. Il a gagné à Zurich, heureusement pour lui. Mais et puis en plus, l'année prochaine, il y a un 17e pays qui sera au rendez-vous, ça sera l'Arabie Saoudite avec un e-prix à Riyad, donc quand même déjà 17 pays en 5 ans qui ont été visités par la Formule
E. Ça fait un beau développement, effectivement. Du côté des constructeurs, on le comprend bien, on va avoir de vraies batteries pour tenir un Grand Prix en entier, ça attire du monde. Comment on explique du coup que Renault, qui a été un peu le pionnier là-dedans, s'en aille à la fin de la saison ?
Alors personnellement, moi j'ai l'impression que Renault était le pionnier, ils ont tout gagné. Et puis là, les concurrents sont revenus. Et puis j'ai l'impression, mais Renault, ils font un petit peu ça dans chaque catégorie de sport automobile. Ils sont devant, et puis au moment où ils se font rejoindre, au lieu de continuer le développement, on arrête.
On se retire. Jérôme Bechat, vous êtes spécialiste de la Formule E, un journaliste sportif sur la chaîne MySports. Eh bien, merci beaucoup d'être passé en direct dans Cap Sport. Belle fin de saison à vous. Il reste 2 courses encore au programme.
Ouais, au mois de juillet à New York. Merci pour l'invitation et bonne soirée.
Cap Sport. La rediff.
Alors, des circuits de la Formule E, on va passer à présent au circuit du Mans. C'est là que se tiennent ce week-end les 24 heures du Mans, l'une des épreuves mythiques du sport automobile. Et c'est d'ailleurs la 85e édition cette année.
Oui, épreuve lancée en 1923. Il a fallu attendre 2011 pour voir un Suisse enfin grimper sur le podium. C'était Marcel Fessler, le Schwitzois, qui a signé 3 fois la 3e place en France. Un autre Suisse est monté sur la boîte, c'est le Biennois Niliani, 2e des 24 heures du Mans. il y a deux ans. Ces deux hommes sont à nouveau au départ cette année. Alors si Marcel Fessler ne jouera pas la gagne, eh bien ni Liani, lui, il en est capable. Il s'élancera d'ailleurs ce samedi à 15h en troisième position sur la grille de départ. C'est un autre Suisse, un troisième Suisse qui partira en pole position, le Vaudois Sébastien Buemi.
Alors ces trois hommes, hein, notre confrère de Radio Chablais, Julien Traxel, les a rencontrés et on évoquait tout à l'heure l'aspect mythique de ces 24 heures du Mans. Explication de Marcel Fessler.
C'est le circuit qui faisait ces courses mythiques aussi parce que c'est une des plus vieilles courses qui existent du monde. Et je crois que les 24 heures, c'est tellement spécial. C'est une fois par année dans un circuit qui tu peux pas seulement rouler une fois par année parce que c'est plus que trois quarts de le circuit et sur la route normale. Ça veut dire que c'est vraiment fermé pour ces courses-là. Et aussi parce que je crois dans l'époque, si on se souvient bien, il y a des courses vraiment très spéciales avec des stratégies, mais aussi avec des... Ça existe toujours quelque chose là-bas. Le film de Steve McQueen qui fait quelque chose de spécial aussi pour le monde. Et surtout après les 204 000 gens qui viennent pour voir la course, qui supportent les pilotes, toutes les traditions qui viennent avec le place de Jacobin, avec le scrutineering une semaine avant la course et après aussi le vendredi où il y a le Drivers Parade. C'est quelque chose qui fait ces courses très spéciales, mais à la fin, c'est clair, pour nous pilotes, ça compte la victoire ou ça compte la course, les 24 heures qui touche toujours spécial.
Il y a beaucoup d'histoires autour de ces 24 heures du Mans, beaucoup d'anecdotes, de la tradition aussi, vous en avez parlé. C'est important, ça, pour un pilote, en tout cas pour vous?
C'est très important parce qu'à la fin, ça, c'est une course qui est connue par tout le monde. J'ai toujours un exemple, c'est pour un skieur, c'est la même chose de gagner Kitzbühel. Pour nous, comme pilote, c'est Le Mans. Ou peut-être, comme pour Roger Federer, c'est Wimbledon. C'est un peu pareil, on peut comparer un peu ça avec cette victoire-là. C'est quelque chose de mythique, spécial et une tradition qui s'existe depuis très très longtemps.
Pourquoi c'est si important finalement à cette expérience, plus important que dans les autres courses?
Ouais, parce que tu as seulement une chance de gagner ces courses, une chance par année. Et après, et normalement, ça c'est le course plus important pour le team, pour le constructeur, pour même pour le pilote. Ça veut dire tout le focus est fait pour ces courses-là. Et c'est clair, quelquefois il y a des, par exemple, si ça commence à pleuvoir, une petite erreur de pilotage peut ruiner toute la course tout de suite. Et c'est clair, si tu as déjà fait pas mal d'expérience avec des courses de 24 heures, tu sais quelquefois que s'il y a beaucoup de risques de casser la voiture parce qu'il y a l'aquaplaning, tout ça, quelquefois c'est mieux de pas être le plus vite sur le circuit. Tu cherches un peu après le risque de perdre 2 secondes par exemple par tour à rapport faire un tête-à-queue ou casser la voiture qui après peut abandonner la course tout de suite.
Le Viennois Nel Liani connaît les sensations d'un podium aux 24 heures du Mans. Il est même passé tout près de la victoire l'an dernier. Cette épreuve est vraiment particulière pour lui. Nel Liani.
Il y a 3 courses dans le monde qui sont... On parle des trois grandes courses. Et puis ça, c'est Le Mans, Monaco Grand Prix, et puis les Indy 500 miles. Parce que c'est 3 courses qui sont super vieux, beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui se passent. Et puis alors, le MUT, il est grandi depuis presque 100 ans.
Mais pour vous, en tant que pilote, qu'est-ce qui change quand on participe aux 24 heures du Mans par rapport au reste de la saison?
C'est la course la plus importante. Si on gagne celle-là, c'est vraiment quelque chose d'avoir ça dans la palmarès. Mais aussi quand nous sommes au départ, et il y a l'année passée, je crois, il y a eu 260 000 spectateurs là. Et on a tous ces spectateurs, c'est quand même spécial, l'atmosphère et tout. Et puis, c'est seulement parce que aussi cette histoire de cette course. Et puis si on arrive à gagner cette course, c'est vraiment quelque chose qu'on va jamais oublier.
Et vous, vous y êtes arrivé, qu'est-ce que ça représente?
Oui, j'ai eu la chance en 2016. On dit, non, Le Mans te laisse gagner, tu peux pas gagner Le Mans. Et puis, j'ai vu ça maintenant, d'un côté, en 2016, quand j'ai gagné, j'ai eu de la chance pour gagner. L'année passée, en 2017, j'ai eu vraiment de la malchance de ne pas gagner. Alors, c'est vraiment la course qui décide leur, qui va gagner. Et puis, c'est ça qui est aussi très spécial. Et puis, en 2016, quand j'ai gagné, on a eu la pole, nous trois, et puis de gagner la course après. C'était le rêve complet, parce que gagner avec Porsche au Mans, c'est comme gagner avec Ferrari et Monaco Grand Prix. Le but prioritaire, c'est fait.
Alors si Niliani tentera de grimper sur le podium, eh bien le vaudois Sébastien Buemi ne vise lui rien d'autre qu'une victoire. Il faut dire qu'avec Toyota, il est le grand favori de l'épreuve, hein, le constructeur japonais qui est presque seul au monde cette année après les départs d'Audi et de Porsche. Du coup, ces 24 heures du monde devraient ressembler à un duel entre les voitures Toyota, Sébastien Buemi.
C'est sûr qu'on se bat très régulièrement contre nos coéquipiers plus que contre une autre équipe. Maintenant, c'est une année de transition, il y aura des nouveaux constructeurs qui devraient arriver sous peu. Donc voilà, Toyota a décidé de rester dans le championnat. Maintenant, gagner les 24 heures, ça reste quand même une lourde tâche, c'est pas facile. Donc on va faire le mieux qu'on peut, on va se concentrer là-dessus. Et puis après, on verra comment le championnat évolue au cours des prochains mois.
Toyota a qui plus est une histoire assez tumultueuse avec les 24 heures du Mans. C'est vraiment l'objectif incontournable cette saison, remporter cette épreuve et même ces épreuves, puisque vous les disputerez deux fois ces 24 heures du Mans.
Oui, alors c'est vraiment l'objectif principal. C'est clair et net pour nous que un autre résultat que la victoire serait une déception, donc on fait le maximum pour y arriver. Il n'y a pas d'excuse, c'est notre objectif et c'est ce qu'on doit faire.
Au niveau de votre équipe, de vos coéquipiers, vous formez un trio, alors ça c'est relativement habituel. Il y a eu quelques changements de votre côté. Vous faites maintenant notamment équipe avec Fernando Alonso. Comment ça se passe ?
Ça se passe très bien. C'est vrai qu'on a eu cette première course ensemble et puis après le problème de la voiture sœur, on a hérité de la pole position et après on a gagné la course. Donc c'était, on va dire, un petit peu un départ rêvé. Tout se passe très bien pour le moment. Il faudra voir maintenant comment l'équipage se comporte. Il s'est très bien intégré, donc pour le moment, aucun problème à reporter.
C'est vrai qu'il mettait en avant que ce championnat d'endurance, c'est spécial, c'est complètement différent du monde de la Formule 1, typiquement, en ce qui le concerne. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ces courses d'endurance, hormis forcément la durée des épreuves ?
Alors, je pense qu'en Formule 1, voilà, on s'adapte à un calendrier, on s'adapte à un type de course, vraiment. Et c'est vrai que là, en endurance, voilà, on roule avec d'autres voitures, d'autres catégories. Donc, il y a beaucoup plus de voitures. On ne fait que de dépasser des voitures plus lentes. On partage la voiture, on a une voiture avec un toit, c'est des courses beaucoup plus longues. Donc c'est sûr que l'état d'esprit, la manière de faire est quand même très différente de ce qu'on a en F1. Là, quand on part pour 24 heures, il faut avoir un état d'esprit qui est un petit peu différent parce qu'on peut perdre la course au premier virage, on ne peut pas forcément la gagner parce qu'elle est très très longue.
Ouais, spectacle garanti donc sur ces 24 heures du Mans. Il est temps d'enlever le casque, les gants, la combinaison. Cap Sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Vous retrouverez toutes les précédentes sur notre site internet. On vous souhaite un bon week-end, Mathieu.
Allez, à vous aussi, Florian.
Hop Suisse.
Hop Suisse.
Cap Sport, la rediff.